Monique Dagneau, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être venue.
Merci de m'avoir invitée.
Vous êtes une sociologue française, directrice de recherche au CNRS. Vous êtes diplômée de Sciences Po Paris et de l'École des hautes études en sciences sociales, deux écoles dans lesquelles vous avez enseigné ensuite. Au cours de votre carrière, vous avez beaucoup travaillé et écrit sur la régulation des médias. Vous avez d'ailleurs été membre du Conseil supérieur de l'audiovisuel entre 91 et 99 et du Conseil de surveillance du journal Le Monde entre 2005 et 2010. Vous vous êtes ensuite intéressée aux adolescents et aux jeunes adultes. En 2021, vous écrivez « Génération surdiplômée, les 20% qui transforment la France ». Le premier paragraphe de votre quatrième de couverture, vous écrivez « Et si la principale fracture au sein de nos sociétés n'opposait pas les 1% des super riches aux 99% restants, mais les 20% des surdiplômés à tous les autres ?» C'est une sociologie de ces gens-là, de ces 20%. Et c'est pour ce livre qu'on vous a invité. Vous êtes là, alors on vous remercie d'être venu et on vous souhaite la bienvenue chez Socio Élu.
Et je suis ravie d'être là, et surtout sur ce livre auquel je tiens beaucoup.
Mais pour commencer, peut-être Monique Dagneau, est-ce que vous pouvez nous présenter succinctement « Génération surdiplômée », livre donc que vous avez écrit avec Jean-Laurent Casselli et publié en 2021?
Alors, je vais surtout vous dire pourquoi on a fait ce livre avec Jean-Laurent Casselli.
Avec plaisir.
Parce que, en fait... Lui travaillait, avait écrit un livre sur les personnes très diplômées qui bifurquaient vers d'autres métiers, du type j'ai un diplôme de management et puis je deviens brassier ou pâtissier. Et puis moi, je suis l'évolution des mouvements culturels dans la société, d'une part. Transformation des modes de vie, des représentations, des engagements politiques au sens très large. Donc ça, c'est ce que je fais depuis extrêmement longtemps. Et en même temps, depuis un certain nombre d'années, je suis les conséquences à la fois de l'explosion des diplômes, c'est-à-dire le fait qu'il y a une proportion extrêmement importante de personnes aujourd'hui qui accèdent à un niveau de diplôme élevé, donc disons bac plus 5. L'autre chose qui m'intéresse aussi et qui est évidemment très visible, j'imagine, dans le livre, c'est que j'ai, vous avez dit que j'étais membre du CSA, enfin la question des médias, mais surtout depuis que j'ai quitté le CSA, je me suis intéressée qu'aux nouveaux médias, nouvelles technologies, etc. et à ce que j'ai appelé le modèle californien, c'est-à-dire la transformation non seulement du mode de communication dans la société, du mode d'éducation, des possibilités d'éducation, mais aussi la transformation du travail, la transformation finalement des entreprises. Donc en réalité, depuis au moins 10 ans, je m'intéresse beaucoup à la numérisation du monde et à ce que ça a transformé partout. Alors si vous couplez les deux choses, la numérisation du monde, toutes les opportunités offertes par les nouvelles technologies, plus le fait que ces secteurs-là sont mus, ont été expérimentés d'abord par des gens très diplômés. Et comme je travaillais aussi beaucoup sur la jeunesse, parce que quand vous travaillez sur des innovations, surtout de ce genre en matière de communication, c'est plutôt la jeunesse qui, au départ, expérimente, s'y intéresse et développe, donne le là un peu de ce qu'on va faire de ces outils technologiques. Donc j'avais quand même un axe beaucoup sur la jeunesse. Alors au départ c'était plutôt les adolescents et puis finalement la dite génération Y elle a vieilli. Donc maintenant c'est plutôt les jeunes adultes qui en plus, l'univers du travail, en tout cas dans certains secteurs, même dans presque tous les secteurs, a été transformé par le numérique. Et donc, au départ, je me disais, quand même, la jeunesse s'est emparée de ces outils. Et finalement, c'est peut-être une voie de mobilité sociale ascendante pour des jeunes non diplômés. Et finalement, ça s'est avéré exactement le contraire.
Alors, on va revenir un peu plus en détail au fil de la discussion sur le numérique. On va parler un petit peu du modèle californien aussi, mais pour bien comprendre le sujet... Pourquoi est-ce que l'augmentation de la proportion du nombre de surdiplômés, ça change le prisme d'analyse ?
D'abord parce que, si vous voulez, aujourd'hui, pourquoi y a-t-il tant de surdiplômés ? D'abord, il y a du côté de l'économie, il y a une demande d'expertise, la société le monde des entreprises est de plus en plus demandeur de diplômés. C'est très difficile, d'ailleurs, en corrélation. Si vous n'avez aucun diplôme aujourd'hui, les autodidactes, c'est très difficile. C'était pas si difficile que ça il y a 50 ans. Aujourd'hui, et d'ailleurs, tout le monde le sait, dans tous les milieux, aussi bien les milieux populaires, il n'y a pas que dans le 7e arrondissement, on est obsédé par le niveau d'études des enfants, partout on est obsédé par ça. Et donc c'est pas un Graal que tout le monde... C'est plus devenu un Graal, c'est quelque chose, il faut, si possible, rentrer dans ces métiers, enfin dans ce niveau de diplôme, qui vous garantit, plus ou moins quand même, une insertion dans la société. Voilà, bon, c'est basique, c'est pas que vous allez devenir l'élite, mais... si vous avez Bac plus 5, bon, alors ensuite on peut discuter évidemment des types de diplômes, etc. Mais c'est un peu le niveau requis si vous voulez avoir une position, un travail soit dans la communication, soit dans la médiation, soit évidemment dans le soin, mais à un niveau élevé, dans le management, dans les entreprises, c'est ce niveau qui est quand même assez requis. Plus, évidemment, il y a quand même le niveau licence BTS, qui est une voie aussi d'insertion, tout à fait.
Et qui ne fait pas partie de ces 20%, puisqu'ils n'atteignent pas le Bac plus 5.
Non, pas du tout. Ils ne sont pas du tout là-dedans.
Pourquoi vous dites qu'ils transforment la France ?
Une des observations qu'on avait faites avec l'essayiste Jean-Laurent, qui est plus jeune que moi, c'est qu'autour de nous, nous n'avions que des Bac plus 5. À un moment, on discutait... Il lui faisait des enquêtes, il parcourt beaucoup la France, il fait des enquêtes sur plein de sujets. Et au bout d'un certain temps... Alors, on travaillait à Slate aussi. Enfin, on travaillait. Moi, j'étais dans Slate.fr, bien que je sois chercheuse, enseignante, tout ça. Mais parce que je voulais comprendre, dans mon souhait de découvrir l'univers numérique, je voulais comprendre comment fonctionne une rédaction web. À l'époque, c'était tout nouveau. Hein. Donc, c'était la grande transformation de la presse. Vous qui êtes journaliste, à ce moment-là, tout changeait. Et Jean-Marie Colombani m'avait proposé, qui avait quitté Le Monde. Alors, j'avais été effectivement dans le Conseil de surveillance du Monde à un moment. Et quand il a quitté Le Monde, il a créé Slate, avec d'autres journalistes du Monde, d'ailleurs. Et il m'a proposé d'écrire. Bon, et comme moi, j'écrivais déjà dans Telos, j'ai une grande habitude des textes de genre 8000 signes, un sujet, un papier, oui, mais un papier qui est accessible à un public cultivé, disons, pas un papier de sociologue à destination de ses collègues. C'est pas tout à fait la même chose. Bon, donc j'avais l'habitude. Et là, c'était très 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 intéressant cette rédaction, parce que d'un côté, vous aviez des anciens journalistes du Monde, des vieux de la vieille, mais qui étaient très expérimentés. Et puis, vous aviez des jeunes journalistes, parce que la culture à ce moment-là, expérimentation, tous les jeunes journalistes se disaient, je vais aller travailler là-dedans, c'est nouveau, ça offrait des tas de possibilités. Ils ont pas mal déchanté, mais... En même temps, il y avait plein de jeunes journalistes et très talentueux, très innovants, avec plein d'idées pour faire des papiers, des sujets qu'en général on ne traite pas, qu'on ne traite pas dans la presse habituelle, dans la grande presse, disons. Et donc, j'avais repéré Casselli, là, Jean-Laurent. Donc, c'était un peu le journaliste sociologue de Slate. Et bon, il a fait un bon itinéraire après. Hein. Et du coup, on avait discuté et... de tous ces lieux innovants. Voilà, alors c'est pour ça la transformation. De tous ces start-up, des rédactions web innovantes, hein, par les thèmes, etc., dont peut-être Slate était un petit peu. Après, il y en a plein d'autres qui font plein d'autres choses. Loopsider, il y a plein d'autres expérimentations. Il y avait en même temps les jeunes start-upers. C'est-à-dire, on voit à ce moment-là le développement, alors c'est plutôt après 2015, le développement de la volonté de travailler en indépendant, le développement des consultants, le développement des start-up. Et donc, moi, je travaillais sur mon projet du modèle californien, qui est une analyse sur ce qui s'est passé et les vecteurs intellectuels porteurs de cette révolution. Et donc, c'est dans cette idée quand même d'explorer ce que ces jeunes investissent dans l'innovation. Il y avait quand même, d'ailleurs, vous avez vu, l'enquête, elle porte quand même beaucoup sur des start-upers qui essayent, alors il y a le côté un peu solutionnisme technologique, ou pas spécialement moins technologique, parce que ça peut être aussi de l'innovation à caractère social. Bon, donc on avait quand même ce projet de se déporter du côté de ce qui était nouveau et pas ceux qui devenaient les Bac plus 5, qui deviennent notaires ou avocats, bon, parce que les Bac plus 5, il y a une grande partie qui va vers des métiers qui existent depuis très longtemps. Et donc on a déporté notre regard de ce côté-là, parce qu'il bougeait, qui touche là aussi pas mal la révolution numérique. Et alors, nous avons édifié un schéma d'analyse qui, je trouve, fonctionne très, très bien pour analyser le monde d'aujourd'hui et que j'avais en tête depuis longtemps, notamment lors d'un séjour à Berkeley, donc il y a vraiment très, très longtemps, où on voyait cette montée, cette puissance du système éducatif, ce boom éducatif, et dans lequel vous avez finalement trois voies possibles. Soit vous êtes vraiment dans une logique de carrière, et puis en plus vous suivez un cursus qui conduit à ça. Si vous faites polytechnique, a priori vous n'allez pas ouvrir une épicerie bio, encore que. Bon, ensuite, ou l'ENA. Bon, puis il y a des gens qui veulent faire carrière, ça n'a pas complètement disparu. Soit vous êtes dans ce qu'on appelle, ce que la sociologie américaine appelle la professional managerial class, qui est une classe à la fois de management, d'expertise, les ingénieurs, les journalistes, donc qui n'est pas dans la sphère du pouvoir, mais qui est dans des sphères d'encadrement, d'innovation, de transmission, de communication, etc. Bon, aussi de décision, mais moins quand même ceux qui sont au sommet. Et ce qui nous semble intéressant dans ce mouvement que nous observions et sur lequel nous avons fait une enquête, c'était la naissance d'une... nous, on met en haut, donc il y a l'élite, les gens, c'est très très peu de monde, hein, c'est les gens qui sont de l'Ecomex, les cabinets ministériels, les grands professeurs d'université. Bon, là, vous avez, disons, plutôt une élite. Ensuite, en dessous, vous avez ce que nous, on appelle la sous-élite, faute de trouver quelque chose. On peut l'appeler la professional managerial class, mais la sous-élite, c'est pas mal. Et il y a ce que nous appelons l'alter-élite.
Que vous positionnez à peu près au même niveau, c'est
pareil,
un parallèle.
C'est-à-dire, c'est des gens qui sont positionnés à ce niveau et de diplôme et de responsabilité dans la société, mais qui ne se destinent pas vers une trajectoire vraiment pour atteindre les sommets. Mais dans la sous-élite, il y a une partie de cette élite, et c'est ça qui est nouveau dans nos sociétés. Votre génération, je ne sais pas quel âge vous avez, mais il y a une volonté de transformer les choses, être du côté du changement social, mais alors changement ou social ou culturel, dans tous les secteurs, c'est-à-dire l'éducation, le secteur de la fabrication, le secteur de la consommation, le secteur de la production.
Mais est-ce que ce n'est vrai que pour les 20% de notre génération qui sont surdiplômés ?
Ouais, c'est plutôt vrai. Oui, alors là, assez. Parce que si vous allez dans des espaces les espaces de coworking, par exemple, allez faire des enquêtes, les espaces de coworking, vous demandez aux gens, et alors c'est tous des gens, souvent ils sont effectivement... start-upers ou indépendants, en tout cas, ils ont créé une boîte, hein, vous voyez ce dont je parle. Et en fait, ils ont quand même l'idée de faire des choses innovantes et aussi innovantes éventuellement socialement. Il y a quand même l'idée du changement. Et vous trouvez quand même pas beaucoup de gens qui n'ont pas le niveau Bac plus 5. C'est dire ça qui nous avait étonnés. Finalement, on n'était entouré que de Bac plus 5. Voilà. Et donc, je tourne autour de ce schéma que je trouve assez efficace pour saisir. Alors, bien sûr, il y a plein de choses qui se passent ailleurs, comme levier, avec comme projet politique au sens très large, vous trouvez plutôt des gens Bac plus 5. Voilà.
Est-ce qu'on retrouve les mêmes proportions et le même phénomène dans les autres pays occidentaux?
Oui, on peut à peu près. Alors, je vais vous dire pourquoi. D'abord parce que le niveau éducatif, la montée du niveau éducatif, c'est pas du tout que la France, hein. La France, elle est au diapason d'autres pays européens. Les pays où le niveau éducatif, disons, où vous avez une proportion très importante alors, je veux dire, de diplômés du supérieur, c'est-à-dire plus de 50%, c'est les États-Unis. Plus de 50% de la population, nouvelle population, plus de 50%, qui a un diplôme du supérieur, pas nécessairement bac plus 5. Et donc c'est d'abord les États-Unis, la Grande-Bretagne. Alors on a toujours l'impression que la Grande-Bretagne, c'est un pays où le self-made man est vénéré plutôt. Mais pas du tout. Bon, il y a un niveau éducatif très important. Le Japon, si. Et bon, donc, cette montée éducative, elle est partout. Et donc, il y a plein de pays maintenant où la moitié des nouvelles générations ont au moins un diplôme du supérieur. Ensuite, vous avez effectivement les différentes filières, et c'est vrai que de ce monde-là, donc cette moitié de la population, vous avez les 25%, 20-25% sur lesquels on a focalisé notre regard. Mais alors, ailleurs, effectivement, ceux qui ont alors que le bac, ou moins du bac, ou rien, ou qui sont complètement, enfin qui sont même souvent, c'est même pas autodidacte, ce sont des gens souvent qui sont dans plutôt, enfin qui ont des difficultés d'insertion, voilà, la difficulté d'insertion. C'est-à-dire si vous quittez l'école en ayant un peu que le brevet, par exemple, vous allez galérer pendant très longtemps, peut-être. Avant de trouver une place. Donc ça change, c'est vraiment, le niveau éducatif est incroyablement déterminant. Alors on peut le déplorer, on peut se dire ce serait mieux. Mais dans la réalité, c'est quand même plutôt comme ça que ça se passe. Et voilà, c'est pour ça que je suis plutôt sur le
Oui,
bac
mais
plus
c'est
5.
étonnant quand on parle des startups qu'on se soit concentré là-dessus, alors qu'a priori, c'est pour les entrepreneurs, c'est pas une condition.
Absolument pas. Mais l'univers, bien sûr, vous avez raison, c'était même, je dirais, dans les années, quand la révolution numérique a commencé. Par exemple, un chiffre dont je me souviens, parce que j'avais écrit un article sur Facebook, en 2008, il y avait 80% des lycéens, des gens de 18-20 ans, qui avaient un compte Facebook. Donc c'est en très peu de temps, alors que Facebook a été créé en 2003-2004, hein, donc en très peu de temps. Donc c'était une espèce, une dextérité que la jeunesse était en train d'acquérir. J'ai même fait plein de conférences à l'époque, puisque j'ai écrit un livre sur les jeunes et la révolution numérique. J'étais invitée à plein d'endroits pour expliquer ce que les jeunes faisaient avec ça. Ouais, c'était drôle d'ailleurs. Et en réalité, donc j'ai vraiment pensé pendant un moment que c'était une voie d'insertion, une autre voie que celle des études classiques. Et en fait, en réalité, et par exemple, Xavier Niel avait créé en 2013 l'école 42, ouverte à des gens qui justement avaient zéro diplôme. Ou en tout cas, qui était simplement amateur, geeks, etc. Et en fait, alors, elle existe toujours, mais c'est vrai qu'il y a une partie des gens qui vont à l'école 42 qui sont diplômés, et quand même cette idée d'opérer, de s'investir dans l'innovation technologique, immédiatement les écoles de commerce, les écoles d'ingénieurs aussi, mais même encore plus les écoles de commerce se sont investies là-dedans. Créer des parcours où les étudiants peuvent créer des entreprises dans leur cursus. Alors, ça existe aussi pour l'université, mais c'est vrai que, disons, que les écoles, les grandes écoles, bon, je ne mets pas que les grandes, grandes écoles, mais disons les 8% d'écoles recensées par la Conférence des grandes écoles, donc c'est assez, assez large, mais plein de jeunes, et encore aujourd'hui, s'investissaient là-dedans, dans des start-up ou dans des. Pour être indépendant aussi, pour être du côté du changement
Et c'est peut-être
aussi.
là aussi où on en arrive à la question du capital économique. D'une certaine manière, monter une start-up après ses études ou pendant ses études, ça nécessite quand même d'avoir des parents derrière qui ont souvent au moins un petit peu d'argent, de quoi permettre aux enfants de pas gagner leur vie. Est-ce que voilà, c'est pas qu'une question de bac plus 5, c'est peut-être aussi une question de capital économique.
Vous avez absolument raison, encore que tel que vous le décrivez, c'est pas tant que les parents qui aient de l'argent. c'est que c'est... Alors, Nicolas Collin, qui est dirigé de Family Bank, Nicolas Collin a dit une phrase, je crois que je l'ai citée là. Ah, notre secteur du numérique de pointe, des start-up, de l'innovation, aujourd'hui, ça fait vibrer les enfants des classes dirigeantes. Et c'est très bien pour nous. Enfin, il a dit ça comme ça, parce que je suis un inspecteur des finances. Et c'est vrai que dans les milieux, dans la bourgeoisie culturelle, économique, c'est très bien d'avoir des enfants qui vont créer leur start-up, avec éventuellement, si vous avez raison quand même, dans certains cas, les parents qui apportent, qui investissent un peu. C'est
ce qu'on appelle le love money dans les start-up.
Ah oui,
dans
le love money, absolument, vous avez raison. Alors ensuite... Bon, c'était quand même cette vision, ça c'est, disons, les années 2015-2016, c'est un peu une vision un peu, comment dire, exagérée, parce qu'en réalité, après, on se détaille, ceux qui ont réussi, ils ne sont pas restés dans la love money. Bon, mais je donne plein d'exemples, hein, nous donnons plein d'exemples dans le livre, de jeunes qui ont, parce que créer des start-up et puis essayer de développer des services nouveaux, hein, tout type de service, en fait, souvent il y a beaucoup d'échecs. On recommence, puis on recommence, etc. Je ne crois pas que, je ne sais pas, dans la création traditionnelle d'entreprise, si cette idée de on lance un truc, ça ne marche pas, on bidouille, on en refait une autre, ou enfin, disons qu'il y a une espèce, une façon de fonctionner avec l'échec-succès qui est très rapide et qui fait vraiment partie de cette culture californienne et qui, à mon avis, n'est pas vraiment celle de la création d'entreprises traditionnelles. Ouais, création d'entreprises traditionnelles, bon, on essaie de convaincre des banquiers, on essaie de tenir, etc. Tandis que dans les start-up avec projets technologiques ou social ou culturel, etc., il y a quand même l'idée de, on fait quelque chose, on voit si ça ne marche pas, très vite, on repart sur autre chose, etc. Donc, c'est assez nouveau. Donc, à nouveau, voilà, pourquoi ? L'idée de transformation. Bon, je suis d'accord avec vous qu'on pourrait peut-être, il faut explorer si il n'y a pas aussi de l'innovation dans des tas d'autres, avec des gens moins diplômés, dans d'autres secteurs, mais...
Mais c'est
moi,
plus
ce
le transforme
même,
la France qui m'a interrogé. Parce que, par exemple, si la transformation vient du mode de consommation, a priori, il n'y a pas que les 20% les plus diplômés qui consomment, et pourtant, ils ont un impact sur ce qui est produit.
Oui, oui, non, tout à fait. Mais leur transformation, ce n'est pas du tout que la production, c'est la consommation, c'est tout. C'est un mode de vie, c'est un projet de vie, c'est... Voilà.
D'ailleurs, vous parlez d'homogénéité culturelle dans ce groupe des 20%.
Oui,
Et elle vient d'où, cette homogénéité? Est-ce que c'est les études qui conditionnent un petit peu la façon de penser? Ou est-ce qu'il y a une origine sociale aussi qui est commune à ces 20% d'une certaine manière, qui sont enfants de cadres, alors de cadres inférieurs ou de cadres supérieurs? Ou alors ça, c'est un prisme que vous avez exclu
Si vous voulez, il y a alors, une vision de la reproduction sociale qui part de la pensée bourdieusienne, mais qui date des années 60, c'est-à-dire l'idée des héritiers. Alors, ça marche assez bien si vous parlez de l'élite. Hein, si vous parlez des gens qui font les cabinets ministériels, les grands corps, tout ça, il n'y a vraiment pas beaucoup d'ouverture sociale. Mais à partir du moment où vous parlez de 25%, enfin de 25% des nouvelles populations, c'est par essence plus ouvert. Hein. Et donc ces jeunes-là, ils peuvent venir de la bourgeoisie culturelle, des profs. Hein, les profs, avoir des parents profs, c'est un bon levier pour faire des études poussées. Et aussi, mais c'est ouvert aussi sur les catégories intermédiaires, parce que comme je vous l'ai dit, disons des parents qui ne sont pas des gens très riches et avec un très très haut niveau de capital culturel, c'est beaucoup plus ouvert. Je vais vous donner un chiffre, les fils, alors prenons que les fils, parce que c'est difficile de faire des études en parlant de tout le monde, fils, fille, etc. Mais si on prend simplement, mais les études sont faites sur les filles aussi, hein, mais si vous prenez fils par rapport au père, vous avez, si le père est cadre, dans sa progéniture, dans sa descendance de fils, pendant que la descendance, vous aurez 50% de cadres, mais vous aurez aussi 30% de gens qui auront des professions indépendantes. Vous aurez même 8% ou 10% qui seront ouvriers. Vous voyez, c'est pas 50% de cadres sup qui produisent 50%. C'est quand même, il y a plus de fluidité. C'est une première chose. Je vous donne un autre chiffre, parce que l'INSEE est quand même fait beaucoup d'études là-dessus. D'abord, il y a beaucoup de chercheurs à l'INSEE et puis ils se posent souvent les bonnes questions. Si vous regardez la population française, alors à nouveau, on va parler que des hommes. Enfin, je reconnais que ce n'est pas une bonne idée de parler que des hommes, mais c'est parce que c'est plus facile. Pendant une longue période, les femmes ne travaillaient pas, donc c'était difficile de comparer de profession de la mère, profession de, mais ça se fait aussi. Hein. Je pourrais vous les donner, je les ai moins en tête, mais ça va tout à fait dans le même sens de ce que je vais dire sur les hommes. Vous avez, entre 1977, donc c'était vous étiez pas née, et aujourd'hui, le nombre de personnes, d'hommes, de 25, je crois que le chiffre porte sur les 25-50 ans, ou les 25-45 ans, qui sont en mobilité sociale ascendante, c'est-à-dire dont le statut de travail, le statut social, le statut professionnel plutôt, est carrément plus élevé que celui de leur père, c'est 28%. D'accord ? Ce n'est pas 2%. Alors, vous pouvez dire 28%, ça pourrait être plus, on est bien d'accord. Mais disons, les gens qui sont en mobilité sociale ascendante, et alors tout le monde, hein, je ne parle pas que...
C'est déjà cadres. Plus que les 20% qui transforment la France.
Oui, mais ça peut être un ouvrier, le père est par exemple agriculteur, et son fils devient instituteur. Le fils, la mère est cadre moyen, ou le père est plutôt cadre moyen, parce que c'est les hommes. Et puis le fils devient, alors rentre dans l'élite par exemple. Vous voyez, c'est quand même des différences de statut qui sont sensibles. Donc 28%, bon, vous pouvez trouver ça beaucoup. Vous avez aussi les mobilités sociales descendantes. Et dans ce lot, c'est-à-dire les personnes, donc l'ensemble des personnes, donc je crois que c'est de 28 à 55 ans, ou de 28 à 50 ans, je ne sais pas vraiment la tranche d'âge, vous avez 15% de gens qui sont en mobilité sociale descendante.
Oui. Ce qui était beaucoup moins le cas dans les années 60. On parle de l'ascenseur républicain.
Dans les années 60, c'était 7%. Dans les années 70, c'était 7%. Ça passe à 15%. Donc vous avez des fluctuations. C'est pour ça qu'il faut complètement sortir d'une vision trop trop figée de la société. Parce que, et c'est du coup le fait que les gens font des études supérieures longtemps, donc ça ouvre quand même, disons socialement, c'est pas, vous n'avez pas 5% de la population qui va faire des études supérieures. Maintenant c'est quand même, je vous dis, la moitié de la population, et en plus 25% qui va avoir un bac. L'autre chose, j'ai pas perdu votre question, c'est que quand vous faites des études supérieures, vous passez un certain nombre d'années à réfléchir à votre avenir, à ce que vous voulez faire. Donc vous êtes obligé de vous positionner déjà, d'avoir une attitude de réflexivité sur votre vie. Hein. C'est quelques années qu'on vous donne. Bon, c'est la première chose. L'autre chose, c'est que l'université ou une grande école, ou petite ou grande ou, petite, ou moyenne école, ça vous offre quand même des opportunités de plein de choses, d'accès à des activités culturelles, d'accès à des possibilités de voyager, de possibilités de faire un Erasmus. Bon, tout le monde ne fait pas des Erasmus, mais si vous voulez, c'est quelques années de la vie qui vous sont octroyés, ou évidemment vous devez engranger des connaissances, des aptitudes, des savoir-faire, savoir-vivre, etc. Mais en même temps, ce sont des années qui vous sont données pour faire de l'auto-réflexivité et vous nourrir sur le monde.
Il y a beaucoup plus de proximité culturelle entre quelqu'un qui a fait HEC et quelqu'un qui a fait une toute petite école de commerce,
absolument,
alors sans jugement, qu'entre celui qui a fait la petite école de commerce et celui qui est sorti avec un BTS.
BTS, déjà,
alors,
normalement,
BTS, qui a arrêté l'école à 16 ans.
Ah oui, alors là, il y a un gap.
Parce que justement, ils ont eu ces années.
Oui, et y a bien sûr, alors il y a plein d'autres choses, hein, c'est-à-dire quand même une partie importante des gens qui arrêtent l'école à 16 ans, c'est souvent aussi quand même des gens issus de milieux populaires. Donc le père était pour une part, enfin une part importante d'entre eux, pas diplômé lui-même, bon, etc. Mais c'est vrai, alors là, c'est une vraie césure entre ceux qui sont, qui ont que le niveau bac ou moins du bac, alors ceux qui ont, et qui finalement remplissent des fonctions souvent qui sont des fonctions plus manuelles, plus de services, qui ont des conditions de vie plus dures et des conditions économiques plus dures, et les gens qui quand même arrivent à verser de l'autre côté des diplômés, alors soit qu'ils aient fait un BTS, où là ils auront quand même, ils auront un poste, ils trouveront aussi un métier, hein. Ça c'est quand même pratiquement tout, beaucoup de BTS amènent à ça, d'ailleurs beaucoup de gens veulent faire aussi des BTS parce qu'il y a une certaine garantie d'emploi, mais aussi ceux qui sont restés 5 ans ou plus parce que, et qui ont fait des études, et dans tous les milieux, parce qu'on sait ça, on connaît ça, dans tous les milieux, on pousse les enfants à faire des études. Sauf dans certains milieux où on pense que les études, c'est même pas tellement peu les moyens de l'envisager. Mais dès que les parents ont un peu les moyens de pousser les enfants, de les soutenir, y compris les enfants eux-mêmes travaillant pendant les vacances, etc., pour gagner un peu d'argent, en fait, il y a cette obsession du succès, enfin, de la réussite scolaire des enfants.
Alors, on voulait rentrer aussi un petit peu dans le sujet, pour revenir sur les 20%, dans le sujet du rapport au travail. D'accord. Je pense que c'est un sujet qui nous a fait beaucoup rire quand on a discuté avec Lucas. Je pense à l'image d'Épinal qui vient à l'esprit quand on parle de la génération des tous consultants.
Ah oui.
Il y a les tous start-upers, il y a les tous consultants. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce phénomène?
Ah oui, non, c'est... Bah, d'abord, tous consultants, tous start-upers, c'est effectivement être d'abord du côté des idées, du côté du côté dont on va, comment on va innover, comment on va faire bouger les choses, on est porté quand même, on est mu par une excitation de soit de conseil, soit de création soi-même par une entreprise, soit justement plutôt quelque chose de nouveau, hein, a priori, ou d'inattendu, par exemple nouveau, alors c'est pas nécessairement nouveau, mais nouvellement exercé. Je prends l'exemple, les boulangers. Vous avez beaucoup de gens diplômés qui, alors ça c'est aussi une chose intéressante dans le rapport au travail, qui n'ont après 3 ans, ça on en a rencontré beaucoup, qui après quelques années de station devant des tableaux Excel, enfin payés à faire comme ça du community management, du community, créer des communautés. Créer des communautés. Il y a un mot pour ça. Mais bon, créer des communautés, ou faire du contrôle de gestion, ou. Faire des slides, évidemment. Trouve ça. Parce qu'une partie des boulots, des postes offerts à ces diplômés n'est pas nécessairement le Graal. Hein. Les nouveaux métiers d'écran, ce qu'on appelle les nouveaux métiers d'écran, ils sont souvent extrêmement ennuyeux, surtout dans une société très bureaucratisée où on doit contrôler tout, etc. Et donc, il y en a un certain nombre qui veulent faire autre chose. Et alors, il y a plusieurs secteurs attractifs, disons. Alors, il y a effectivement créé des startups et devenir consultant. Parce qu'en plus, vous êtes du côté de l'innovation, vous êtes du côté de où ça bouge, mais aussi, a priori, vous pensez que vous allez être indépendant. Bon, c'est encore à voir si on l'est vraiment, mais en tout cas, il y a cette idée-là. Mais il y a 3 secteurs qui sont vraiment des secteurs de bifurcation, bon, à part ceux-là, mais qui sont assez classiques, le consultant ou le créateur d'entreprise. Il y a donc les métiers artisanaux, le retour de l'art de la main. Cassely, il avait beaucoup étudié les métiers de bouche, du genre les boulangers, les charcutiers, les gens qui font de la bière, les brasseurs. Mais en fait, il y a bien plein d'autres secteurs. C'est pas parce que ça a l'air, comment dire, un peu glamos de ces métiers où on fait de la cuisine, de la bonne cuisine et tout ça, ou du bon pain. Non, mais moi, par exemple, j'ai rencontré des plombiers. Il y a aussi toute une partie, parce que c'est très manuel, vous voyez le résultat de votre travail.
Gagne plutôt bien sa vie.
Et voilà, alors, je rajouterais, c'est vrai que ces nouveaux secteurs de bifurcation, ce n'est pas nécessairement des secteurs de relégation économique. Et c'est vrai que, par exemple, alors, je prends le plombier parce que j'en avais rencontré, ce n'est pas des gens qui. Alors, ils sont contents. Parce que d'abord, ils sont indépendants, ensuite, ils sont contents parce que c'est concret, ils sont contents, mais aussi, ils ont après, souvent, l'idée de développer leur entreprise. Ce n'est pas eux qui vont aller déboucher
Pratique
les.
pas le métier de la même manière,
Oui,
finalement.
voilà,
Ça
ils le
retourne
pratiquent. Ouais,
l'artisanat, mais avec ce côté toujours start-up nation, quelque part.
oui, on Startup Nation, en tout cas, ou alors, pas que ça, oui, ils peuvent faire des franchises, enfin, ils ont quand même. Éventuel, mais pas nécessairement. J'ai rencontré par exemple des boulangers très contents. Ils ont une boulangerie qui marche très bien. Ils sont absolument émerveillés d'eux-mêmes de faire du si bon pain. Bon, c'est pas eux qui font nécessairement au bout d'un certain temps le pain eux-mêmes, mais c'est des boulangers. Mais ils n'ont pas nécessairement de l'idée de créer des
Une chaîne de
filières, une
boulangerie.
chaîne. Pas nécessairement. Mais c'est variable. Mais en tout cas. Quand ils vont dans les secteurs de bouche, ils ont l'intention, ils travaillent autrement que, a priori, différemment que les artisans d'antan, qui existent évidemment encore aujourd'hui. Donc ça, c'est un premier secteur. Il y a un autre secteur qui est très, c'est le coaching. Alors tous le secteur du bien-être. Bon, avec les nouvelles méthodes. Alors le nombre de professeurs de yoga, je suis d'ailleurs étonnée. De gens qui se mettent professeurs de yoga, parce que c'est quand même un peu étonnant, mais qui réussissent à ça, parce que j'en ai rencontré, j'ai même fait un portrait dans le livre. Mais ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup de gens qui eux-mêmes pratiquent le yoga, parce que pour.
Beaucoup
Voilà.
de profs de yoga font des cours aux autres profs de yoga et c'est un cercle vertueux finalement.
Peut-être que c'est un cercle vertueux, mais en tout cas, il y a des gens, parce que aussi, alors à nouveau, nouvelle façon de procéder, et grâce aux nouvelles technologies. Vous mettez aussi, vous développez votre site sur Instagram, vous dépassez un temps fou d'ailleurs à développer votre site, à mettre des nouvelles photos, enfin je veux dire Instagram de ce point de vue-là est une mine, mais aussi au bout d'un certain temps, vous allez faire des conférences sur le yoga pour animer, je ne sais pas moi, un événement Danone qui va parler pour une part du yoga. Enfin, disons, c'est plein d'autres, ça ouvre à plein d'autres façons de gérer ces activités de coaching. Alors, le coaching, le soin, le bien-être. Et le troisième point, c'est l'agriculture. L'agriculture bio. Alors, à nouveau, c'est des gens qui ont un projet, alors évidemment lié à la crise climatique et à l'éco-anxiété, tout ce qu'on veut. Et donc, vous avez maintenant des secteurs qui se sont développés. Alors, je pense qu'il ne faut pas non plus trop, comment dire, voir que tout le monde veut devenir plombier, pâtissier ou agriculteur bio,
Il y a
mais
encore des
quand
banquiers
même.
d'affaires et des consultants
Complètement, bien
traditionnels.
sûr, oui. Bien sûr, oui, non, c'est pour ça que c'est difficile à mesurer, parce que parfois, parce qu'il faudrait pouvoir le mesurer sur la continuité, hein, parce que c'est des phénomènes relativement nouveaux liés à la révolution numérique, avec les opportunités permises par la révolution numérique. Mais moi, je rencontre vraiment très, très souvent des gens qui lancent des nouveaux trucs. Regardez, vous lancez un truc, pour les podcasts. Ça n'existait pas tant que ça. Qui est-ce qui consommait des podcasts il y a 10 ans? Personne.
Personne.
Bah, les gens écoutaient la radio.
Oui.
Ah ouais, mais c'est différent. C'est une autre façon d'accéder à l'information. C'est un autre type d'information.
Ouais, c'est sûr que sans la révolution numérique, on ne lance pas de podcast.
Ça, c'est sûr.
Oui, par exemple. Oui.
Moi, je voulais vous amener, je suis
Je
désolé, le temps.
suis peut-être trop bavarde.
Non, c'est pas du tout. Mais comme le temps file, je passe d'un sujet à l'autre sans forcément de transition. Je voulais absolument parler d'un sujet, donc un peu plus politique cette fois-ci, sur les 20%. Vous parlez dans Génération Surdiplômée des anywhere et des somewhere.
Oui.
Alors je trouve que c'est très intéressant et je vais vous laisser développer sur ce sujet si vous le voulez bien.
David Goodhart, il a écrit un livre où, alors, mais c'était avant le Covid. Il y avait effectivement les gens qui sont les anywhere et les somewhere. Alors, les anywhere, ce sont justement plutôt les 20% qui sont habitués. Alors, quand vous êtes dans les 20%, en général, bon, vous avez une grande dextérité numérique, c'est-à-dire le langage numérique, vous êtes capable de. travailler en anglais, éventuellement une autre langue. Et vous êtes habitué au changement de code en permanence. Hein. Vous maniez plusieurs codes très vite et vous avez une très grande adaptabilité. C'est une des choses que vous avez été obligé finalement de faire pendant vos études et qui est encore plus encore enseignée dans les grandes écoles. Et donc, vous êtes à l'aise partout. Vous avez voyagé. D'ailleurs, les anywhere, puisqu'on a fait une enquête quantitative sur ces gens-là, sur ces diplômés, ils ont 60% d'entre eux ont travaillé à l'étranger avant la fin de disons avant de commencer vraiment à travailler, d'avoir un travail disons de s'inscrire dans une trajectoire professionnelle, ils ont une expérience de travail à l'étranger.
Contre quelle proportion par exemple pour les autres, c'est beaucoup.
Alors
beaucoup...
que c'est, si vous prenez les gens qui ont moins du bac, c'est même pas 20%.
D'accord.
Donc ça fait une grande différence. C'est des gens qui. Alors il y a un livre célèbre qui s'appelle La Terre est plate de Thomas Friedman. Bon c'est ça. Le monde est à eux. Et puis donc il y a les somewhere, c'est-à-dire les gens qui sont de quelque part et ne peuvent bien vivre que dans leur région ou dans la ville où ils sont nés. C'est un très bon découpage et qui d'ailleurs recoupe le découpage super diplômé, hyper diplômé et moins diplômé. Ce que je pense, c'est que ça existe encore, mais on peut dire que le Covid a quand même transformé un peu tout ça, et que l'aspiration à lâcher les amarres, aller vivre à l'étranger, voyager tout le temps, tout ça, a pas mal diminué. D'abord parce qu'il y a eu l'expérience du Covid, donc les gens ont appris finalement. Il y a beaucoup de gens qui travaillaient à l'étranger qui sont revenus en France. Et ils ont finalement l'horizon des gens, de ces personnes-là sont plus rétrécis, mais rétrécis c'est un peu péjoratif, mais cette aspiration à être un nomade dans le monde a peut-être diminué. C'est une hypothèse, hein, parce que nous l'enquête elle date d'avant le Covid. Mais c'est vrai qu'il continue d'y avoir entre ceux qui n'ont pas quitté leur région, parce que souvent ils n'ont effectivement pas fait d'études, ils ne sont pas allés à l'université, ils sont restés dans leur région, à proximité de lieu, là où ils sont nés, voilà, à proximité de la région. Et puis les autres pour lesquels bon, le monde est complètement ouvert.
Et alors, c'est là où le bas blesse, si je puis dire, parce que dans votre livre, vous expliquez que les anywhere sont des gens qui ont beaucoup plus tendance statistiquement à voter pour les Macron et Obama de ce monde,
ouais.
Là où les somewhere sont plutôt pro-Trump et pro-Brexit.
Ouais.
Je cite presque le livre.
Ouais, ouais.
Alors, d'une certaine manière, déjà, ma première question, c'est pourquoi est-ce qu'il n'y a pas que des Trump et du Brexit, puisqu'on parle d'une loi de Pareto 80-20 ici. Et d'autre part, qu'est-ce qui explique, encore une fois, cette grosse séparation des mondes entre les anywhere et les somewhere, entre les 20% et les 80%?
Alors, d'abord, ce n'est pas 20%, 80%, hein, c'est quand même... Alors, ce que décrit David Goodhart, c'est 30-30-30. C'est 30% plutôt de gens qui sont dans la logique du anywhere, 30% qui sont dans la logique du somewhere, c'est-à-dire accrocher un territoire, et 30% qui
voyagent entre les deux. C'est le swing state. C'est le swing state à l'américaine qui
va pencher
les républicains
et les démocrates. Peut-être, oui, c'est ça. Alors, il y a une chose aussi, c'est que un indice fort d'être du côté des somewhere ou des anywhere, et donc pour le dire autrement, voter pour des partis qui vantent les charmes du néolibéralisme, de la mondialisation, etc., ou voter pour des partis qui sont pour des replis plutôt identitaires, qui ont peur de l'étranger, qui sont... C'est la question de l'immigration. Entre un Trumpiste et puis un non-Trumpiste, ou donc les gens qui ont voté pour Obama, ou maintenant pour Biden, c'est vraiment le rapport à l'étranger, aux migrations. Et c'est la même chose en France, hein, y a ça. C'est pas 80-20, hein, c'est 30-30-30. Et au milieu, vous avez plutôt, les gens se positionnent au gré des vents, effectivement, quand vous avez des événements forts, je sais pas, la guerre d'Ukraine, les conséquences économiques de la guerre d'Ukraine et tout ça, les migrations aussi, ça c'est évidemment, et le climat, la chose qui a évidemment beaucoup, beaucoup recomposé, repositionné les gens, c'est la crise en matière politique, c'est la question de la crise climatique.
Ça justement, c'est très intéressant, vous en parlez dans votre livre, vous parlez des partis, le parti de Glucksmann, c'est Génération, je crois, l'électorat de Benoît Hamon et d'une certaine manière même l'électorat d'Yannick Jadot, qui est presque un électorat exclusif de ces 20%. C'est des partis politiques presque dédiés, d'une certaine manière.
Alors... Oui, ça a changé un peu parce que, évidemment, nous, on était... Le livre a été écrit en 2020. Donc, avant, on avait bien cerné les écolos. Mais on n'avait pas vu le naufrage, quand même, du Parti écologiste aux élections. Hein, le naufrage, ils ont fait 5%. La gauche fait 2%. Il y a eu une très grande recomposition politique finalement, et c'est vrai que quand on a fait l'enquête, même moi encore maintenant, je m'étonne que les écologistes aient aussi peu de... Alors il faut dire qu'on peut dire ensuite, faire la critique des écologistes, pourquoi ils attirent si peu de jeunes, parce que d'abord tout le monde ou presque est sensible à la question écologique, les jeunes, le projet... des écologistes, a priori, allaient bien avec le projet des Anywhere. Et en fait, ça n'a pas marché du tout en France. Mais ça a mieux marché en Allemagne, par exemple. En Allemagne, les Verts... je viens de faire une enquête récemment. C'est vrai qu'auprès de la jeunesse, les Verts marchent très, très bien. Les Verts allemands, hein, c'est très loin, beaucoup, beaucoup mieux que les partis de radicaux de gauche.
Il y a un sujet qu'on n'a pas encore abordé, c'est un petit peu la thématique et le fil conducteur de ce podcast, c'est l'argent. D'accord. Donc j'ai deux, trois petites questions avant de terminer sur le sujet. Vous écrivez que la catégorie des 20% les plus diplômés ne regroupe qu'imparfaitement la catégorie des 20% les plus riches. Est-ce que selon vous, c'est une exception française? Parce que je suis allé regarder un petit peu, voilà, dans ces 20% les plus diplômés, quelles sont les professions les moins bien payées? Donc on a le corps enseignant, évidemment, on a les chercheurs, une partie du personnel hospitalier. Moi, mon intuition, c'est que ce n'est pas la même chose dans les autres pays. Les chercheurs américains sont beaucoup mieux payés. Le corps enseignant, dans l'OCDE, la France est quand même très mal positionnée. Donc, est-ce que là, on n'est pas dans une exception française à ce niveau-là?
Une exception plutôt des pays du Sud qu'une exception française. C'est vrai que dans ces pays-là, la fonction publique, est mal payé, mal valorisé, alors que dans d'autres pays, notamment le personnel enseignant, les chercheurs sont très valorisés. En France, les chercheurs sont mal payés, ça c'est évident, et du coup ils émigrent souvent. En France, vous pouvez avoir, même dans l'enquête là, je vais être honnête, souvent on a été surpris par le niveau de rémunération de ces gens qui sont censés être hyper, hyper diplômés. Je pense qu'on donne des fourchettes, mais alors, on les a pris aussi jeunes. Enfin, donc, ça va de 25 à 39 ans. Donc, c'est vrai que ce n'est pas la période la plus florissante de leur carrière. Mais on a été surprise par un peu l'écrasement des salaires par rapport à ce qu'on pouvait attendre de personnes qui aient autant de diplômes. Et je pense que ce n'est pas que français, c'est plutôt quelque chose qui s'est ancré dans les pays d'Europe du Sud. Ce qui veut dire aussi que ces gens-là, pour certaines fonctions, ils se sentent déclassés. Les profs se sentent extrêmement déclassés. On revalorise en permanence un petit peu les rémunérations du corps enseignant, mais c'est vraiment très très bas par rapport au nombre d'études, par rapport à l'engagement, par la place qu'on occupe dans la société, etc. C'est une place complètement stratégique. Et donc, oui, ça c'est... Alors, ceux qui gagnent plutôt bien, c'est... Alors, à nouveau, je reviens au modèle californien, c'est ceux qui sont dans le secteur de l'innovation technologique ou managériale, ça oui, ils peuvent. Bon, par exemple, les développeurs, ils gagnent très très bien leur vie, ils gagnent très bien leur vie, assez bien. Non, plutôt bien, disons. Mais aux États-Unis, ils gagnent des fortunes. Oui, ils gagnent. Oui. Alors, je ne vous parle pas des gens qui créent des boîtes qui ensuite se développent. Je parle simplement des développeurs, des ingénieurs qui sont dans ces boîtes et qui sont ce qu'on appelle les talents. Bon, beaucoup de place est consacrée aux talents dans ce livre. Et ces talents, on se les arrache parce que, effectivement, dans une économie de l'innovation technologique permanente, peut-être trop d'ailleurs, on peut se dire pourquoi vouloir, mais du solutionnisme technologique. Maintenant, partout, vous essayez de trouver du solutionnisme technologique, y compris d'ailleurs, évidemment, pour lutter contre la crise, le dérèglement climatique. Donc, les gens qui sont dans ces secteurs-là d'innovation technologique, les développeurs, les ingénieurs, et puis toutes les, disons, toutes les sous-spécialités d'ingénieurs, la cryptomanie, bon, etc., ils sont vraiment recherchés. Donc, ils sont sur un marché compétitif et ils sont plutôt bien payés. Mais autrement, alors notamment, il y a plein de start-upers qui peinent. Hein, les start-up, ils ne se payent pas ou le démarrage est difficile, etc. Donc, mais ceux qui sont les rois du pétrole aujourd'hui, dans ces secteurs, c'est les ingénieurs. Je fais des conférences. Dans les conférences, il faut dire à vos enfants de devenir ingénieurs.
Oui, il y a beaucoup de parents qui le disent.
C'est vrai?
Oui, ça arrive.
Dernière question, Soso?
Oui, alors, je vais en avoir deux petites dernières.
Ah,
alors, je vais vous poser une dernière question sur l'argent. Bon, ça va faire un peu le lien avec tout ce qu'on a dit. On a parlé de politique. Ouais. On a parlé de rémunération. Moi, la question que je voulais vous poser, je pense qu'on a déjà répondu à une partie de la question, mais qu'on se concentre un peu sur... Est-ce que le bac plus 5 qui va gagner le SMIC... Alors, je ne parle pas du start-upper, justement, vous avez lu des points-là, mais le bac plus 5 égale le SMIC, ou le banquier d'affaires qui est lui aussi bac plus 5, est-ce que les deux vont voter Macron ou parti centriste, ou est-ce qu'il y a quand même aussi un gros clivage au niveau du revenu et du salaire?
Quelqu'un qui travaille à la défense, dans la finance, quelqu'un qui est prof, par exemple, ou bon, même dans les médecins, c'est encore autre chose parce qu'une partie exerce en libéraux, mais non, un chercheur, par exemple, un chercheur dans une grande organisation de recherche française, bah oui, il y aura vraiment un gap. Alors. De rémunération. Mais un gap de rémunération, ça veut dire aussi des difficultés pour se loger, puisque aujourd'hui, avec un des points importants, c'est quand même le capital qu'on a pour se loger, enfin pour rentrer dans le marché immobilier. Or, il y a eu l'explosion des prix, notamment en région parisienne, et bon, ça fait aussi fuir un certain nombre de personnes, notamment des gens qui ne gagnent pas très bien leur vie, tout en ayant un bac plus 5. Alors, il y a des grandes différences, mais je pense aussi qu'il y a des grandes différences de vote. Hein, c'est-à-dire que, quoique, ce qui est un peu curieux, enfin, si on regarde les dernières élections, comme vous l'avez vu, il y a la NUPES capte beaucoup le vote. Alors, sans doute pas des banquiers d'affaires, c'est sûr.
Pas encore.
Pas encore, en tout cas. Mais des gens qui ont des très bons niveaux des diplômes. Hein. Sciences Po, alors, bon, ensuite, on verra ce qu'ils font dans 10 ans. Mais en tout cas, les étudiants de Sciences Po votent à 55% pour la NUPES. Donc, c'est quand même assez significatif. Les ingénieurs aussi, parce qu'en plus, les ingénieurs, il y a aussi toujours cette volonté de transformer. Ils sont... Non, Macron, il a plutôt un électorat maintenant plutôt âgé. Non, c'est très compliqué, les votes aujourd'hui, mais il y a une radicalisation à gauche d'une partie de la jeunesse diplômée. Voilà, et hyper diplômée. Alors évidemment, plus ceux qui ne gagnent pas trop bien leur vie, plus ceux, etc. Mais il n'y en a pas tant que ça qui gagnent très, très, très bien leur vie. Il n'y a que certains secteurs, oui, évidemment, les traders ou les banquiers d'affaires et tout ça, les avocats. C'est une profession très éclatée, mais une partie des avocats qui gagnent très, très bien leur vie.
Monique Dagneau, merci beaucoup. J'ai une dernière question pour conclure notre entretien du jour. Est-ce que, selon vous, première question, le mouvement de la massification de l'enseignement supérieur va continuer? Est-ce qu'on va avoir de plus en plus de bac plus 5? Et si c'est le cas, est-ce qu'on se dirige vers une homogénéisation sociale basée sur les mœurs des 20%? Alors, je ne sais pas
Ah,
si vous
c'est
pouvez
deux...
répondre à la question en 2 minutes, mais...
Non, c'est deux questions en fait. C'est vrai que il y a quand même, quand on regarde les chiffres, il y a l'élévation du niveau éducatif de la population en moyenne, enfin, notamment ces gens qui font des études supérieures, incline à augmenter. Bon, alors je ne sais pas jusqu'à quand, mais en tout cas, la machine économique, bureaucratique demande que les gens aient des diplômes élevés. Donc il y a un mouvement comme ça. Mais la deuxième partie de votre question, c'est...
Est-ce qu'on se dirige vers une homogénéisation de la société basée justement sur les mœurs et sur les habitudes de ces
Alors,
20%?
ça c'est plutôt alors c'est une question plus compliquée parce que en réalité, c'est vrai que ce qu'on explique un peu dans ce livre, c'est que les 20% ont développé un système de valeurs, une façon de se projeter dans la vie, d'aspiration. Voilà, les aspirations des 20%, elles sont quand même, on les repère bien, et d'ailleurs elles se traduisent pour une part aussi dans des votes politiques. Mais on peut faire le pari. Est-ce que ce modèle-là, les 20%, c'est un repoussoir ou est-ce que c'est quelque chose qui va se diffuser largement? Or, c'est pas évident, c'est pas du tout, c'est très difficile de trancher cette question.
Eh bien, on va se quitter là-dessus.
C'était un plaisir de discuter avec vous.
Un vrai plaisir.
Bon.
Comme d'habitude.
Non, c'est oui,
Alors,
d'accord.
allez-y, si vous avez quelque chose à dire.
Non, mais j'ai trop parlé en fait,
Non, non,
j'imagine.
pas
Ah
du
ben
tout.
non, on est dans les temps.
On est parfaitement dans les temps.
D'accord.
Donc, on demande généralement à l'invité de signer son livre
Oui,
et de mettre
d'accord.
un petit mot à notre intention dedans.
Oui, bah bien sûr. Alors, pour Soso et Lulu, épisode 4, Monique Dagneau, cette exploration de leur génération, génération surdiplômée, surdiplômée, sûre, en phase avec ce modèle, à voir.
Merci
Merci
beaucoup.
beaucoup.